Salut à tous, c'est Jérémy Royot pour Scepticisme Scientifique. Aujourd'hui, avant de vous présenter mon invité, je vous transmets vite une petite info par rapport au tome 2 de Zach et Zoé qui est sorti en financement aujourd'hui. Donc, c'était cette BD sceptique par Jean-Michel Brassard et Marius, donc BD adressée aux jeunes enfants. Le tome 2 vient de sortir en financement donc ce matin et il est consacré à la mythologie chrétienne. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment très chouette et je vais mettre le lien sur la page de l'épisode. Voilà, donc je passe à mon invité, donc qui est Julien Benoît. Salut.
Bonjour.
Donc Julien, tu es chercheur en paléontologie à Johannesburg et les auditeurs te connaissent déjà pas mal, hein, ceux qui suivent régulièrement les podcasts. Tu es déjà venu plusieurs fois nous parler de différents sujets et tu es aussi YouTuber, donc tu as une page, une chaîne qui s'appelle Stop Science.
C'est bien ça.
Voilà, une chaîne qui aborde pas mal de sujets différents, même s'il y a beaucoup de choses qui sont liées à la paléontologie, à l'évolution. Il y a aussi d'autres choses assez diverses et variées. Tu as été assez prolifique sur cette chaîne, il faut dire, sur des sujets assez vastes, quoi. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler en fait d'un sujet qui n'est pas souvent abordé, je pense, au niveau sceptique, donc ça s'appelle la géomythologie. Alors je vais te laisser présenter le sujet pour pas dire de conneries, parce que c'est un truc que je connais pas très très bien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, tout à fait. Alors, on va commencer par une petite définition, hein, comme toute bonne présentation. Ouais, si on veut, mon intérêt pour la géomythologie, il est né de mon intérêt de base pour les monstres et la cryptozoologie. Donc, la cryptozoologie, ce serait enfin, la géomythologie, ce serait un des pendants sérieux de la cryptozoologie. Voilà, donc la cryptozoologie, on considère ça de manière générale comme une pseudo-science. La géomythologie, en fait, ce serait l'étude d'une petite partie des centres d'intérêt des cryptozoologues, mais de manière scientifique. Et donc, dans le détail, la géomythologie, c'est la discipline historico-scientifique qui s'intéresse aux mythes et aux légendes qui ont une source d'origine géologique ou paléontologique. Donc, par exemple, typiquement, le monstre du Loch Ness est une géomythologie selon la définition pure du terme, puisque le monstre du Loch Ness, enfin, quand on connaît l'histoire, il est né sous les traits d'un dinosaure et il a évolué après sous les traits d'un plésiosaure, donc deux animaux typiquement paléontologiques. Voilà aujourd'hui, la version actuelle du Loch Ness qui dit que le Loch Ness serait un plésiosaure, est une géomythologie. Elle se base sur des comment dire. Il y a le fondement scientifique de cette mythologie est géologique par nature. Voilà.
Et le monstre est défini en relation avec l'endroit dans lequel on trouve, quoi. Qui est le Loch Ness qui est une structure particulière au niveau géologique, quoi. Enfin, qui est un endroit particulier.
Alors après, oui, on peut avoir. Le Loch Ness, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais on peut avoir effectivement des endroits qui, de par leur géologie, vont faire naître des mythologies. Donc, moi, je me suis beaucoup intéressé à la question des dragons, par exemple, et donc on a beaucoup de légendes de dragons qui ont une source géomythologique. Donc, par exemple, il y a ce lieu qui s'appelle à Aix-en-Provence le Rocher du Dragon, ou le Rocher au Dragon. Et on sait qu'il a une légende associée, ce lieu. La légende, c'est qu'il y avait un dragon qui vivait là et qui a laissé derrière lui les squelettes de ses victimes. Et quand on fouille un petit peu l'histoire du coin et la géologie du coin, on se rend compte que les squelettes en question, c'était ni plus ni moins qu'un dépôt. Un dépôt datant du Miocène et qui était ce qu'on appelle un bone bed, donc un lid d'ossements fossilisés de mammifères qui datent d'entre 5 et 20 millions d'années et qui a finalement inspiré cette histoire de dragon à la population locale. Donc ça, par exemple, c'est une géomythologie de chez nous, quoi, 100% francophone, voilà. Si on peut regarder, après on peut regarder dans pas mal de directions. Par exemple à Metz, donc plus près de la Belgique, un peu plus près de la Belgique, on a à Metz le Graouilly, et il a été proposé que le Graouilly a été inventée par les populations locales parce qu'on a découvert près de Metz de très très beaux spécimens d'ichthyosaures qui sont des reptiles marins du Mésozoïque, donc des reptiles marins qui ont entre 100 et 200 millions d'années. Et donc à partir du moment où on propose ce genre d'hypothèse, on se dit qu'on va donner une explication scientifique à un mythe, mais peut-être qu'en fait l'explication scientifique peut devenir elle-même un mythe. Donc c'est-à-dire que là en l'occurrence cette histoire d'ichthyosaure, elle n'est pas forcément très supportée. On n'a pas de preuves écrites ou matérielles qui lient directement la légende du dragon avec avec cette explication de l'ichthyosaure. Donc il y a une limite, on va dire, il y a une limite assez floue entre ce qu'on va appeler mythologie, géomythologie et ce qu'on va pas appeler géomythologie à ce niveau-là. C'est jusqu'à quel point on peut connecter la mythologie à la géologie, ça va être l'endroit où on va avoir du flou.
Oui, ça c'est comme en histoire, où quand il n'y a pas de preuve d'un événement, mais qu'on fait des hypothèses qui sont probables et qu'elles sont partagées, ben, au plus elles sont partagées, au plus ça devient des hypothèses qui sont connues ou qui ont du poids, alors qu'elles peuvent parfois être tout à fait fausses parce qu'on n'avait pas tous les éléments pour les poser à la base, quoi.
Oui, exactement. Exactement. Et donc un élément géomythologique qui est persistant dans la culture populaire et qui est certainement faux, c'est cette idée que les gens ont que les dragons ont été inspirés par les dinosaures. Voilà, que les gens, en trouvant des ossements de dinosaures, se sont dit, ah, ça devait appartenir à des reptiles géants, et d'où la naissance de la légende des dragons. Et donc l'ichthyosaure de Metz et le Graouillis feraient partie finalement de cette catégorie, plus ou moins, bon, même si c'est pas un dinosaure techniquement parlé, mais pour la culture populaire c'est la même chose. Mais voilà, il y aurait cette idée, il y a cette idée persistante que les dragons ont été inspirés par les dinosaures, et le fait est que, aussi loin que la littérature a été fouillée, et elle l'a été, et bien comme il faut, il n'y a quasiment aucune connexion entre dragons et dinosaures qu'on ait pu retrouver historiquement, à part en Chine. Parce que la Chine est un cas à part culturellement, du moins du point de vue des géomythologies. Mais voilà, en Europe, en Amérique, en Afrique, il n'y a pas de lien entre le mythe du dragon et le mythe la découverte d'ossements fossiles de dinosaures par des populations qui n'aurait pas un background scientifique pour identifier un dinosaure, voilà.
Et pourquoi quand tu dis que c'est différent en Chine par rapport au reste du monde, pourquoi?
Alors, en Chine, la particularité culturelle, c'est qu'ils considèrent tous les fossiles comme appartenant à des dragons. Voilà. Donc, que ce soit du dinosaure ou pas. Et, voilà.
Et
Donc.
est-ce ils entendent par dragon la même chose que ce que nous on entend alors ou pas vraiment?
Alors, leur concept du dragon est assez proche du nôtre. Au final, je veux dire, la représentation qu'ils en ont. Après, les vertus qu'ils attribuent au dragon sont très différentes. Les dragons ne sont pas méchants, entre guillemets, par nature. Mais voilà, les vertus qu'ils leur attribuent sont différentes, mais graphiquement, ils sont très similaires. C'est des gros lézards. Voilà. Et c'est tout ce dont on a besoin pour tracer une géomythologie. On veut juste la morphologie puisque les comportements ne fossilisent pas. Donc, de toute façon, voilà. Mais en Chine, oui, la particularité, c'est que tous les fossiles sont considérés comme des dragons. Donc, les dents sont appelées des longues. Je crois que c'est des longues chi. Donc, des dents de dragon. Et les os sont appelés des longues gu, qui sont des os de dragon. Donc. Et ça fait des milliers d'années qu'ils sont en contact avec ces fossiles parce qu'ils les utilisent dans leur médecine traditionnelle. Donc ils réduisent les os en poudre pour les mélanger au thé et ils ont des vertus curatives. Bon,
Donc,
alors
ce que ça
ça,
veut dire
c'est un
que...
drame de notre côté parce qu'ils broient des fossiles, mais c'est aussi grâce à ça qu'on a découvert beaucoup, beaucoup de fossiles en Chine. L'Homo erectus de Chine, qui est connu sous le nom d'homme de Pékin, a été lui-même découvert sur une colline qui s'appelle la colline aux dragons. C'est pas pour rien, c'est parce que ça faisait des années, enfin des centaines d'années que les gens allaient chercher des fossiles là-bas. Et une fois que les Occidentaux sont arrivés avec leur paléontologie dans leur sac, enfin leur kit de paléontologue dans leur sac, ils ont dit, vous appelez ça une colline aux dragons? On va aller y jeter un œil. Et voilà.
Et il a fini aussi dans le thé ou...
Non, 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 pas celui-là.
Qu'est-ce que ça veut dire que, du coup, pour eux, tous les fossiles de dinosaures, en fait, pour eux, c'est tous des dragons. Ils font une sorte de filiation, comme ça, dans l'arbre, de l'évolution par rapport à ça, ou
Non,
c'est
non, non,
juste.
non, après. Non, non, c'est juste que un os. En fait, finalement, c'est comme si le mot os fossile se disait os de dragon.
Ah oui, ok, donc c'est plutôt langagier que parce qu'il
Voilà.
retrace une filiation au niveau de l'évolution par rapport à entre les dinosaures et une autre espèce qui serait le dragon, quoi.
Oui, voilà, non, il n'y a pas d'implication.
Juste langagier, ok,
Voilà, c'est
ouais, je vois.
langagier, c'est le concept de dragon est intimement lié à celui de fossile, en fait.
Ok, je vois, je vois.
Voilà. Et donc, par exemple, si on regarde le dragon chinois, il a des. L'une des choses qui a été discutée pas mal en géomythologie, c'est justement la contribution des mammifères fossiles à l'image du dragon chinois. Et l'un des points qui est discuté et qui est intéressant, c'est les cornes des dragons chinois sont souvent représentées comme des bois de serre. Et ça, ce
Ok.
serait pas complètement anodin, ce serait probablement parce que effectivement il y a beaucoup de cervidés fossiles et que chez les cerfs, en Chine je veux dire, il y a beaucoup de cervidés fossiles et que les bois sont les parties qui fossilisent le mieux et le plus souvent tout simplement parce qu'ils en produisent chaque année, donc fatalement ils produisent beaucoup plus de bois que de n'importe quel autre os. Voilà. Donc ce serait les cornes si particulières des dragons chinois auraient peut-être été directement inspirées des fossiles de mammifères, mais pas de dinosaures du coup.
Ok. Et du coup, la géomythologie, c'est une discipline qui a été créée il y a longtemps ou?
Alors c'est une discipline relativement jeune. Il n'y a pas encore de spécialistes vraiment dédiés à la géomythologie. Il y a soit des historiens qui s'intéressent à l'histoire de la paléontologie, soit des paléontologues qui s'intéressent à l'histoire de la paléontologie, ou des géologues qui s'intéressent à l'histoire de la géologie. Mais il n'y a pas vraiment de spécialistes dédiés à la géomythologie, en tout cas pas que je sache. C'est une discipline qui a été créée dans les années 70, enfin qui a été formalisée dans les années 70. Ça ne veut pas dire que les gens ne tentaient pas déjà avant ça de faire des connexions entre les géosciences et la culture populaire avant ça. Bien évidemment, ça existait avant. Mais ouais, la formulation date des années 70. Alors, originellement, c'est plus né de la connexion entre médecine traditionnelle et géologie, c'est-à-dire l'utilisation de pierres pour la médecine traditionnelle. Donc, l'ambre, ça inclut l'ambre, ça inclut les bélemnites, ça inclut les oursins, donc ça incluait beaucoup de fossiles au final. Et c'est pour ça qu'après, il y a vraiment une branche toute particulière de la géomythologie qui a commencé à s'intéresser uniquement aux fossiles et pas à toutes les géomythologies. Mais en soi, on peut aussi étudier, par exemple, les chutes de météorites et les histoires qu'elles ont pu générer par le passé. Par exemple, je crois que c'est au Zimbabwe, il y a une histoire de météorites, enfin de chutes de météorites qu'on peut retracer jusqu'à plusieurs dizaines, voire centaines d'années, je ne me rappelle plus exactement, mais en gros, le fait que la météorite soit tombée a généré une mythologie qu'on peut encore... dont on peut suivre l'évolution et qu'on peut encore retrouver aujourd'hui dans les populations locales. Et on sait que cette météorite est tombée par des observations astronomiques. Voilà. Donc c'est un peu le reflet. La géomythologie, c'est un peu le reflet, l'interprétation de la culture non scientifique. Je vais plutôt que de l'appeler populaire, on peut l'appeler non scientifique, non éduquée, on va dire. C'est l'interprétation des cultures non éduquées de phénomènes géologiques. Voilà. Donc n'importe quel phénomène géologique, ça peut être une inondation, ça peut être la chute d'une météorite, peut être interprété sous le prisme géomythologique. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est que du coup, ça donne une image directe de la représentation qu'ont les gens, d'une part de la science, ça donne une idée finalement de la transmission des connaissances entre les strates d'éducation, on va dire. Donc la fameuse, connaît probablement le concept de la tour d'ivoire. Voilà, est-ce que les scientifiques d'une région donnée sont sur une tour d'ivoire et n'ont tellement pas de contact avec les populations locales que au final, les populations locales préfèrent aller chercher des géomythologiques que des explications scientifiques. Donc ça peut être comment dire, un baromètre de ce genre de choses. Et puis c'est intéressant aussi dans les cultures qui n'ont tout simplement pas de tradition écrite. Ça permet de connaître finalement l'histoire de leur science à eux, en fait. Par exemple, les Amérindiens, on arrive à savoir qu'ils trouvaient, grâce à leur géomythologie moderne, on arrive à savoir qu'ils trouvaient des fossiles il y a déjà 300, 400 ans, voire même avant 100. Et j'ai oublié la question. C'était quoi ta
Je
question?
sais plus, on est passé d'une chose à l'autre.
Ouais, j'ai digressé, mais
Mais c'est
gravement.
très bien. Donc en fait, il y a vraiment un peu de sous-branches quelque part dans la géomythologie. Il y a donc celle qui parle de la géologie en elle-même, et puis celle qui parle des événements géologiques, genre éruptions volcaniques, tremblements de terre, inondations, comme tu disais. Ce qui est un peu deux choses différentes, en fait.
Oui, après, oui, il y a les objets. On peut différencier les objets et les phénomènes. Donc, l'éruption volcanique, c'est effectivement un très très bon exemple. Encore qu'il y a très peu de volcans qui aient fonctionné à une époque qui aient fonctionné à une époque où il aurait pu générer une géomythologie et qui a arrêté, ou qui n'est jamais refonctionné depuis. Mais oui, il y a les phénomènes géologiques et les objets géologiques. Et leur interprétation peut être sujet effectivement à différents mythes. Donc oui, c'est vrai.
Et est-ce que ça veut dire qu'il y a une certaine époque à partir de laquelle on peut plus parler de géomythologie, ou une époque à partir de laquelle ces mythes n'apparaissent plus? Comment est-ce qu'on définit cette limite, enfin, si on peut dire? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'on a de la géomythologie qui apparaît il y a 500 ans, par exemple, ou est-ce que c'est d'office il y a plus longtemps, il y a 1000 ans, ou
À partir du moment où il y a de la culture non scientifique, il y a de la géomythologie. Comme j'ai dit, le monstre du Loch Ness, c'est une géomythologie extrêmement récente du point de vue historique. Après, les plus anciennes, justement, puisqu'on parle du mythe du dragon, le mythe du dragon, il aurait une origine. Là, je cite les travaux de Julien Duhi, qui est un historien. Qui est un historien français. Je crois qu'il est français. Français ou belge? Bonne question. Mais ouais, Julien Douy, donc qui a écrit plusieurs articles, dont un sur dont oui, au moins un sur l'origine des dragons, du mythe du dragon. Et en fait, pour lui, l'origine du mythe du dragon, elle remonterait au moins au paléolithique. Donc là, on parle en plusieurs dizaines de milliers d'années. Je crois que le chiffre qu'il avance, c'est 40 000 ans. Et il remonterait à plusieurs dizaines de milliers d'années en Afrique, et ce serait en gros un mythe lié aux arcs-en-ciel, aux orages et aux sources d'eau. Voilà. Donc ça reste une géomythologie dans le sens où c'est effectivement associé à un événement. Alors une source ou une cascade, ce serait effectivement un événement géologique. Après, c'est plus dur d'appeler les arcs-en-ciel et les orages des événements géologiques. Bon, ça reste dans la sphère climatologique et hydrologique, donc c'est vraiment borderline, on va dire. Mais puisque la question est à propos des limites de la géomythologie, je pense qu'on est en plein dedans, du coup. Mais voilà, le mythe des dragons, il pourrait avoir 40 000 ans, selon lui. Et ce serait finalement un serpent arc-en-ciel, voilà. Le mythe de base, ce serait un mythe du serpent arc-en-ciel qu'on retrouve encore aujourd'hui chez les Bushmen, par exemple. Donc dans le Kalahari. Donc on peut aller aussi loin que 40 000 ans, on peut être aussi proche que à peine une dizaine d'années. Une des questions que je me suis posée, c'est est-ce qu'on pourrait appeler un produit culturel comme Jurassic Park, est-ce qu'on pourrait appeler ça une géomythologie, par exemple? Ça, j'ai pas encore trouvé de réponse satisfaisante, j'avoue. C'est pas encore rentré dans le domaine de la mythologie et de la légende, donc je dirais que non. Mais c'est vrai qu'au final, ça reste un produit culturel basé sur des faits géologiques et paléontologiques. Donc, dans l'absolu, ça qualifie pas encore, mais c'est pareil, on est sur la très fine limite du concept. Voilà.
Donc pour que ça devienne de la géomythologie, il faudrait que les gens perdent le savoir qui indique que c'était quelque chose qui a été créé pour du divertissement, et donc qui est volontairement, qui est une histoire, quoi, qui n'est pas quelque chose auquel les gens croyaient.
Oui, exactement. C'est-à-dire, faudrait, oui, faut avoir une ignorance de l'origine de l'objet ou du phénomène, voilà, qui fait l'objet de la mythologie. Donc, c'est pour ça que je disais le cas du volcan, c'est compliqué parce que c'est compliqué de trouver un volcan qui ait été en activité à un moment et généré une mythologie et ne soit pas rentré en activité depuis. Voilà. Parce que sinon, on retrouve l'origine du mythe, forcément. Mais après, il y a des mythes sur les volcans. Par exemple, les Grecs anciens pensaient que les volcans, c'était la colère des titans qui était sous les volcans. Donc, ça n'empêche pas d'avoir des géomythologies autour des volcans, évidemment. Mais si on avait une géomythologie autour de l'éruption elle-même, c'est compliqué d'avoir une géomythologie qui s'installe autour de l'éruption elle-même si des éruptions ont lieu régulièrement.
Ouais, c'est
Voilà.
ça. Parce que là, il continue à être confronté à la réalité du phénomène, du coup.
Voilà, donc c'est plus sur la partie où il y a du mystère. La géomythologie, c'est voilà là où ça devient, comme je disais, là où c'est intéressant de les étudier, c'est qu'est-ce que les quelle est l'explication non scientifique qui a été fournie en fait. Et la qualité de cette explication n'est pas toujours, enfin on appelle toujours ça une géomythologie, mais là où c'est intéressant, c'est que c'est pas toujours si mythologique que ça. Il y a des fois où elles sont remarquablement précise et juste. Par exemple, les Indiens d'Amérique avaient des pardon, ils avaient une façon, ouais, je dis pas les Indiens d'Amérique parce que c'est vraiment une tribu particulière d'Indiens d'Amérique qui avait une façon d'expliquer l'origine des fossiles à base de création et de recréation qui était finalement pas si loin de ce que Georges Cuvier à l'époque avait proposé dans ses recherches sur les ossements fossiles. Donc Georges Cuvier, on est juste après la Révolution française, voilà. Donc c'est pas, donc on a ces deux concepts de création, destruction, recréation, destruction qui forment des strates et qui se retrouvaient à peu près à la même époque et en Amérique du Nord et en France du coup, mais finalement, les Indiens d'Amérique s'appelaient pas, les Indiens d'Amérique n'appelaient pas ça de la science, mais nous, on commençait à appeler ça de la science. Donc finalement, quand je dis non scientifique, voilà, c'est aussi ça c'est tout un, comme c'est une nouvelle discipline, c'est aussi très très dur d'avoir la bonne nomenclature, on va dire.
Ouais. Et donc
Mais,
cette hypothèse de ce Cuvier, c'est ça? C'était quoi son hypothèse?
c'est juste, il avait observé les strates géologiques. Il avait remarqué que les fossiles d'une strate particulière étaient différents de la strate d'au-dessus et de la strate d'au-dessous, de dessous, pardon. Et du coup, il avait fait cette interprétation semi-biblique, on va dire, de plusieurs déluges qui ont eu lieu. Mais en fait, pour lui, les espèces changeaient, mais sans changer. En fait, c'était des recréations. Voilà. Donc c'est juste chaque strate géologique présentait une nouvelle création divine. Et du coup, ce concept-là, qui était basé directement, là, on a la documentation, je veux dire, il a laissé des écrits derrière lui, donc on a la documentation, on a toute sa manière de penser qui a été couchée sur papier, donc on voit très bien comment il en est arrivé là. Et donc, ce qui est marrant, c'est d'arriver à comparer justement sa démarche scientifique, sa démarche qu'on appelle scientifique, à la démarche qui avait conduit les Indiens d'Amérique à la même époque, cette tribu particulière, dont je ne me rappelle plus le nom, hélas, mais qui en est arrivé quasiment à la même conclusion, mais sauf que là, les écrits sont tellement ténus qu'en fait, on n'a pas tout le cheminement de pensée, et du coup, on n'appelle pas vraiment ça de la science pour. À l'époque, ça a été collecté par des colons, ça a été collecté sur écrit par des colons, et donc ça a été qualifié de mythologie. Et voilà. Mais c'est la au final, c'est quasiment la même théorie, entre guillemets. Donc c'est ça qui est marrant, c'est que dans ces géomythologies, il y a souvent une grosse part de l'esprit déductif des populations qu'on qualifie de non scientifiques. Et souvent, il y a des, il y a des, il y a des, comment dire, il y a des, il y a des explications qui sont d'une justesse assez bluffante.
Oui, ce qui est un peu différent de beaucoup d'hypothèses qu'on a effectivement en cryptozoologie où il n'y a en général pas grand-chose à en tirer à part des infos sur des autres espèces mais qui n'ont finalement rien à voir et qui sont déjà connues en général.
Ben, souvent, oui, est-ce qu'on pourrait. En fait, ce qu'il y a de marrant, c'est que la cryptozoologie, justement, ce serait un peu le reflet moderne de ce qu'on appelle pour le passé la géomythologie. Donc, la cryptozoologie, ça, si elle persiste, deviendrait des géomythologies. Donc, j'ai déjà parlé du
Ouais.
monstre du Loch Ness. Mais on peut. Enfin, il y a plein d'éléments. À la limite, ça, c'est presque plus. Au niveau de la cryptozoologie, il y a beaucoup plus de ce qu'on pourrait appeler de la biomythologie, au final. Donc des éléments biologiques réels, mais qui ont été interprétés par le prisme de la cryptozoologie et qui sont devenus finalement des histoires qui persistent. Donc le Yeti, le Sasquatch, enfin Bigfoot. Donc là, pour le coup, c'est pas vraiment des éléments. Géologique, par exemple, si on parle des empreintes de Bigfoot, c'est pas des empreintes fossilisées, donc on peut pas appeler ça un objet géologique, mais c'est un objet biologique, et ces empreintes ont donné la naissance à tout le mythe du Bigfoot, finalement, alors qu'elles étaient fausses à la base, mais voilà, ça vient d'une interprétation, d'une biologie non scientifique, en fait, d'une pratique, d'une biologie non scientifique, non éduquée, si je peux dire ça comme ça. Voilà.
Est-ce que tu as d'autres exemples intéressants de ces géomythologies qui ont été étudiées ou sur lesquelles on a fait des publications
Ben justement, je viens de publier un article. Enfin, mes collègues
Ah.
et moi, on vient de publier un article sur les. C'est le premier article sur les géomythologies africaines.
OK.
Donc, on est les premiers à vraiment. Alors, on n'est pas les premiers à travailler là-dessus, on est les premiers à vraiment rassembler toutes les données et à commencer à les étudier sous le prisme de cette nouvelle discipline qui est la géomythologie. Comme je
Okay.
disais, voilà, les gens s'étaient déjà intéressés bien avant ça au lien, enfin, sous le prisme de l'histoire des sciences, ils s'étaient déjà intéressés à ces choses-là. Mais on est les premiers à avoir vraiment rassemblé toutes les données et essayé de tirer un bilan de qu'est-ce qu'on sait des géomythologies africaines. Et donc on a publié ça dans un article tout récent dans les Proceedings of the Geologists Association. Et il y a un exemple en particulier qui est très intéressant, c'est celui d'une grotte ornée en Afrique du Sud. Non, pardon, au Lesotho. Bon, vu de la France, c'est à 10 000 bornes, ça change pas grand-chose, mais vu de là où je suis, il faut être précis. C'est au Lesotho. Donc au Lesotho, il y a une grotte ornée sur laquelle il y a une espèce de motif en forme de trident dont on n'avait aucune idée de ce dont ça pouvait représenter en fait. C'est un trident inversé et finalement, on retrouve ce motif que dans une seule grotte, et ça représente rien de particulier pour ce qu'on sait de la culture des Bushmen. Enfin, des multiples cultures des Bushmen. Encore une fois, Bushmen est un terme extrêmement générique. Mais voilà, ça représente rien de ce qu'on pour ce qu'on en sait. Et il est venu cette interprétation possible, c'est que cette grotte, elle est située donc juste à côté d'un gisement fossilifère où il y a des empreintes de dinosaures. Et les empreintes de dinosaures, c'est des grosses empreintes à trois doigts qui ressemblent à s'y méprendre à ce motif en trident. Et donc est née l'hypothèse que et si cette peinture était finalement une représentation d'une de ces empreintes qu'on trouve juste à côté de la cave, de la grotte. Et à partir de là, il y a un autre élément qui se trouvait juste à côté de cette empreinte qui s'est mis à faire sens aussi, c'était des représentations d'oiseaux, enfin de qui ressemblent à des oiseaux, mais assez bizarres en fait. Mais ouais, c'est des choses qui ressemblent à des oiseaux. On voit un petit croupion, c'est des figures bipèdes, avec un petit croupion, un très long cou et un genre de bec. Bon, voilà, ça ressemble. Et c'est pareil, c'est pas un motif qu'on retrouve régulièrement chez les Bushmen. Les Bushmen, ils font plutôt des figures humanoïdes, à moitié animales sur leur représentation pariétale. Donc ça, c'est pareil, c'était un truc, on savait pas trop ce que c'était. Et là, on s'est dit, et si les Bushmen avaient compris que ces empreintes étaient très similaires à des empreintes d'oiseaux modernes? Et là, ça, c'est pareil, ça commence à avoir du sens. C'est parce que les Bushmen, c'était des trackers assez exceptionnels. Enfin, c'est toujours des trackers assez exceptionnels. Ils sont capables de reconnaître un animal rien qu'à l'empreinte. Un animal moderne, ils le reconnaissent rien qu'à l'empreinte. Et pourtant, il y a des variétés d'antilopes à foison en Afrique du Sud. Ils sont capables de savoir quelle espèce d'antilope c'est rien qu'à l'empreinte. Voilà. Donc, ils sont balèzes. Ils sont balèzes à ce niveau-là. Et là, du coup, on aurait ces empreintes qui correspondent à rien du tout. Et éventuellement, on a germé l'idée qu'en fait, il est possible que ces Bushmen aient interprété enfin, aient trouvé ces empreintes, en aient fait une représentation, et juste à côté de cette représentation, aient dessiné le possible auteur de l'empreinte, qui pour eux est un oiseau géant, parce que des grosses empreintes à trois doigts, il n'y a pas 36 animaux modernes qui font des empreintes à trois doigts, c'est les oiseaux. Mais pour le coup, ce serait de gros oiseaux. Et là où ce serait extraordinaire, c'est que la peinture date à peu près du début du siècle dernier, donc début 1900, voire fin 1800. Et à la même époque, le Richard Owen, qui a inventé le mot dinosaure, en gros, il pensait que ouais, milieu 1800, on va dire, mais voilà, à l'époque, on se représentait les dinosaures comme des espèces de gros animaux balourds. Richard Owen pensait qu'ils étaient quadrupèdes. Début 1900, on commençait déjà à les représenter de façon bipède, mais toujours avec la queue en train de traîner derrière eux. Et là où c'est intéressant, c'est que les Bushmen, eux, avaient déjà compris, si on suit cette interprétation évidemment, auraient déjà compris que les dinosaures traînaient pas leur queue derrière eux, tout simplement parce qu'ils ont observé des empreintes et que sur les empreintes, il n'y a pas les empreintes de queue. Il n'y a jamais d'empreintes de queue sur les empreintes fossilisées de dinosaures. Donc c'est enfin c'est tout c'est très hypothétique évidemment et on en a bien conscience mais on se dit que voilà comme je disais tout à l'heure il y a vraiment des interprétations qui pourraient être remarquablement justes bon là évidemment on est un peu court niveau preuve directe mais c'est vraiment l'un des exemples que je trouve les plus fascinants. C'est si vraiment tout ça tient debout et que dans le futur on trouve peut-être de nouvelles peintures qui permettent de corroborer ce lien ou des choses comme ça, ben, ça voudrait dire qu'il y avait des cultures non scientifiques qui avaient des interprétations des fossiles de dinosaures qui étaient plus justes que les cultures scientifiques contemporaines.
Ah oui.
Et ça, c'est balèze. Je trouve ça assez balèze.
D'accord.
Et après, d'autres exemples qui sont assez intéressants, c'est le. Après, je vais rester dans les dragons parce que, comme j'ai dit, tout mon intérêt pour la géomythologie vient de la cryptozoologie, et donc les dragons, c'est quand même l'objet cryptozoologique le plus classe du monde.
Ouais.
Il y a des exemples en Allemagne et en Autriche de fossiles qui ont été retrouvés à la fin du Moyen Âge, donc dans les années, voire même début Renaissance, donc ouais, 1400, 1500, ouais, c'est plus début Renaissance, voire franchement Renaissance. Donc y a un crâne de rhinocéros laineux qui a été trouvé dans une ville qui s'appelle Klagenfurt, et aujourd'hui il y a une statue dressée, y a une statue qui a été dressée en 1500 du dragon de Klagenfurt, et en fait elle est toujours visible aujourd'hui, cette statue. Dans le centre-ville. Et en fait, le crâne du dragon a été directement. Enfin, la tête du dragon a été directement inspirée de ce fossile de rhinocéros laineux. Donc, ce qui montre qu'en fait, le rhinocéros laineux, le crâne de rhinocéros laineux a été interprété comme étant le crâne du dragon, du coup. Il y a des écrits de. C'est pas un architecte, c'est un sculpteur pour un. Voilà. Il y a des écrits du sculpteur qui dit qu'il a utilisé ce crâne comme étant celui du dragon. Et donc ça, c'est très. Enfin, c'est assez intéressant de voir comment, à l'époque, ils interprétaient les fossiles. Et surtout, pourtant, les rhinocéros, c'était des animaux connus à l'époque, même en Europe. C'était des animaux qu'on connaissait, mais ils n'avaient pas. C'est un orage. Donc, ouais, c'est intéressant qu'à l'époque, du coup, ils n'avaient pas encore cette démarche d'anatomie comparée. Anatomie comparée qui a été inventée par Cuvier en 1700, comme j'ai dit, fin 1700, début 1800. Donc ils n'avaient pas encore cette démarche d'anatomie comparée, donc généralement, soit ils interprétaient les fossiles comme appartenant à des humains géants, et alors là, il y en a des milliers d'histoires de fossiles qui ont été interprétées comme des humains géants en Europe, soit ils avaient le réflexe d'attribuer ça à des dragons, c'est des cas beaucoup plus rares. Et comme je l'ai dit, il n'y a jamais de dinosaures dans le tas, c'est toujours des mammifères. Tout simplement parce que les dinosaures... Ils sont trop vieux et généralement les fossiles sont de très mauvaise qualité, donc enfin de très mal préservés, donc on ne retrouve pas de beaux fossiles de dinosaures aussi facilement qu'on retrouve des beaux fossiles de mammifères. Et puis donc voilà, il y a du coup cette histoire du dragon de Klagenfurt, il y a l'histoire du dragon de Mixnitz en Autriche. Alors lui, c'est un crâne d'ours qui a été trouvé dans une grotte. Et en fait, ce crâne d'ours a été publié à l'époque, donc encore une fois dans les années 1500. Il a été publié à l'époque, il a été décrit avec une image, et l'image en dessous, il y a écrit crâne de dragon. Et donc il y a un érudit de l'époque, encore une fois, qui a produit l'effort de publier cette figure. Mais encore une fois, le réflexe d'anatomie comparée n'existant pas à l'époque, enfin le réflexe, la démarche d'anatomie comparée n'existant pas, ça a été au petit bonheur pour trouver l'origine du crâne. Et alors maintenant, la grande question avec ce crâne de Klagenfurt et ce crâne de Mixnitz, c'est est-ce que la légende préexistait au fossile ou pas? Puisque la publication du fossile est globalement la première trace écrite aussi qu'on ait de la légende du dragon. Donc la question c'est est-ce que la personne qui a trouvé le fossile et l'a interprété comme un dragon l'a fait parce qu'on lui a dit qu'il y avait un dragon dans le coin, en gros, ou est-ce que la légende est née à partir du fossile? Et c'est là que ça devient compliqué. Et globalement, c'est là que l'histoire, j'en reviens à cette histoire de dinosaure-dragon, c'est là aussi que c'est extrêmement compliqué, c'est de savoir qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier, quoi.
Et ça devient compliqué de déterminer quelque chose, quoi. Du
Exactement. Donc...
coup, ce type de publication, elle se fond dans quoi comme revue? Dans des revues de paléontologie ou
C'est-à-dire celle de...
par exemple enfin la tienne et celle de tes collègues, par exemple, publiée
Oui,
dans quoi?
alors il n'y a pas de revue spécialisée. Il n'y a pas de revue spécialisée, mais globalement, ce qui se passe, oui, c'est que c'est soit dans des revues d'histoire des sciences. Donc j'ai mon collègue Marco Romano qui travaille aussi sur les géomythologies en parallèle de son travail normal, qui publie beaucoup sur les histoires de géants d'ailleurs. Donc si vous voulez googler un truc pour avoir des histoires de géants croustillantes, vous cherchez Marco Romano. Il a publié des tonnes et des tonnes d'articles dessus. Donc lui, il publie ça généralement dans Historical Biology, si je me rappelle bien. Donc c'est une revue qui parle d'histoire de la biologie. Et comme la paléontologie touche directement à la biologie, on arrive toujours à... Voilà, dans notre petite lettre qui accompagne l'article, on peut motiver que, monsieur, ça colle quand même au but de la review. Nous, on a publié dans... Alors on s'était fait refuser de deux autres revues, je crois. Et on avait fini par publier dans le Proceedings of the Geologist Association, que j'avais repéré, parce qu'ils avaient déjà fait des articles de géomythologie, mais plus reliés à la géomythologie médicale. Donc l'usage des fossiles et des pierres au Moyen Âge, ils avaient déjà fait... Il y avait notamment un article qui s'appelait Geology of the Dark Side, donc la géologie du côté obscur, qui avait été publié dans cette revue-là, qui était donc un article en fait des interprétations démoniaques d'objets géologiques, voilà. Et qui était très très intéressant d'ailleurs, qui est très bien écrit et très drôle à lire. Donc C'est un article que je recommande. Et donc, mais c'est des reviews, c'est des revues à impact factor, donc qui sont généralement pas trop mal cotées. Donc, mais il faut arriver à repérer, les revues qui ont le sens de l'humour, on va dire, qui ont un certain recul aussi par rapport à leur discipline, parce que c'est vrai qu'on, du coup, on propose aussi beaucoup de nouvelles choses. Il est pas souvent, comment dire? C'est pas toujours facile de proposer les idées qu'on propose. Par exemple, l'idée de l'hypothèse de cette histoire de peinture, de Bushmen et tout ça. Enfin, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont hoché la tête en l'entendant. Et moi, le premier, hein, quand j'ai entendu la première fois cette interprétation, je me suis dit, non. C'est plus. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on colle tous les morceaux ensemble, on se dit, bon, faut quand même envisager cette possibilité. C'est quand même très possible que ça se soit produit. Donc voilà, c'est des articles au final où on propose beaucoup de choses nouvelles et on propose des choses qui peuvent être aussi controversées. Par exemple, il y a aussi les bouquins. Voilà, évidemment. Il y a Adrienne Mayor notamment, qui est une historienne américaine et qui elle a publié deux bouquins, un sur les géomythologies périméditerranéennes, donc les géomythologies autour de la Méditerranée et notamment grecque et romaine. Et elle a publié aussi un livre, pardon, sur les légendes fossiles amérindiennes. C'est donc les légendes des Indiens d'Amérique inspirées par les fossiles. Donc ça, c'est un autre médium dans lequel on peut retrouver de ces histoires, mais c'est non peer, enfin, c'est peer-reviewé, mais pas aussi. C'est pas le même principe que pour un article, quoi. Donc, c'est pareil, elle se permet, je pense, d'être plus, comme on dit en anglais, controversiale qu'elle devrait l'être dans ses bouquins. Ça permet aussi Après, je pense que le futur de la discipline, ça va être de ranger ces géomythologies par ordre de plausibilité. Il va falloir qu'on établisse un barème un jour. Bon, on n'en est pas encore là. Mais ouais, donc elle a. Ouais, j'en venais à la controverse. La controverse, en gros, des fois ça peut être controversé parce que par exemple, en Amérique du Nord, dans les années 50, il y a un article qui a été très très. Je vais pas dire important parce que ça voudrait dire qu'il était important scientifiquement, qui a beaucoup influencé les gens sur le fait que. Enfin, sur la possibilité que les Amérindiens aient trouvé et interprété des fossiles avant que les Européens n'arrivent. C'est un article qui est sorti dans les années 50, donc quand l'Amérique du Nord était encore bien raciste, on va dire, quand les USA étaient bien racistes, et c'est un paléontologue qui s'appelle Alfred Sherwood Romer, qui est toujours, je pense, une des figures les plus admirées de la paléontologie des vertébrés du siècle dernier. Enfin, il est mort, je veux dire, il est pas vivant, mais le travail qu'il a fait fait toujours autorité, quoi. Et à l'époque, c'était une autorité monumentale. Et donc, il a publié un article où il disait, les Indiens, ils ont rien foutu. Fin de l'histoire. Voilà. Et donc, il y a Adrienne Mayor qui, en arrivant presque 60 ans après ça, donc c'était, ouais, dans son livre sur les Amérindiens, c'était 2004, je crois. Donc, en arrivant 50 ans après ça, elle s'est encore pris des retours. Elle s'est encore pris des retours parce qu'elle allait à l'encontre du dogme établi par Romer, qui était les Amérindiens ont rien foutu. Alors qu'on sait que c'est pertinemment faux. La plupart, j'ai envie de dire, quasiment toutes les grandes découvertes de dinosaures et de mégafaunes de mammifères qui ont été faites en Amérique du Nord avant les années 1930. Donc par là j'entends la découverte du tyrannosaure, la découverte du diplodocus, la découverte du stégosaure, la découverte des mammouths, la découverte, enfin voilà, tous les objets paléontologiques nord-américains qui aujourd'hui peuplent l'imaginaire collectif ont été découverts grâce à des paléontologues européens, enfin euro-américains, guidés par des guides amérindiens. Tous. Donc, il n'y a pas un seul site découvert entre 1700 et 1930 qui n'ait pas été pointé du doigt par un guide amérindien. Parce qu'il connaissait ces sites, il les connaissait très bien. Et d'une, il les connaissait et évidemment, ils avaient des interprétations de ces sites. Et comme je l'ai dit, certaines d'entre elles étaient remarquablement correctes. Certaines d'entre elles étaient très fantaisistes, évidemment. Mais bon, c'est la même chose des géomythologies en Europe. Les géomythologies en Europe, elles sont aussi, elles étaient aussi extrêmement fantaisistes. Elles sont toujours extrêmement fantaisistes. Il y a beaucoup de sites qu'on peut visiter aujourd'hui en Europe, en France, où il y a des histoires de dragons, il y a des histoires il y a des histoires de monstres, il y a des histoires de diables aussi. Il y a beaucoup de sites géologiques en France qu'on attribue au diable, enfin, dont que la culture populaire attribue au diable. Bon, mais ça n'empêche que ça montre qu'il y a eu un intérêt des Amérindiens pour ces sites, qui ne présentaient pas de richesse particulière, hein, parce que surtout la médecine traditionnelle, il n'y a que très très peu de tribus qui utilisaient les fossiles en médecine traditionnelle parmi les Indiens d'Amérique. Donc ça ne représentait pas une richesse pour eux, ou pour la plupart d'entre eux. Donc c'est quand même des choses qu'ils avaient repérées d'une, et qu'ils ont pris le temps de garder en mémoire, qu'ils ont interprété à la lumière de ce qu'était leur connaissance et leur mythologie. Donc il y a quand même deux grosses étapes parmi les. On va dire, pour ce qui est d'une démarche, comparé à une démarche scientifique, il y a quand même au moins deux étapes en commun. Donc après, l'étape de l'interprétation, on peut en discuter, c'est sûr que c'est pas une interprétation scientifique, mais il y a quand même une démarche de curiosité à la base. Voilà. Là, on peut parler effectivement d'une démarche de pure curiosité envers les objets fossiles. Donc c'est assez. Ouais, c'est fascinant, quoi. C'est complètement fascinant de se dire que, bah oui, les fossiles n'étaient pas juste c'était pas des cailloux avant la paléontologie. Avant la paléontologie, il y avait déjà des gens qui s'étaient dit, waouh, ce truc est bizarre, qu'est-ce que c'est? Voilà. Même si ça m'avance à rien de le savoir, qu'est-ce que c'est? Et faire une histoire qui se maintient pendant des siècles à propos d'un objet qui sert à rien, moi je trouve quand même
Ouais, c'est clair.
que c'est assez balèze. Voilà.
Ok. Bah, je pense qu'on va tout doucement arriver à la fin de l'épisode. Je sais pas s'il y a encore quelque chose que tu souhaites rajouter, quelque chose qu'on n'a pas abordé, ou un mot de la fin,
Oui, bah, je sais pas, peut-être rapidement, qu'est-ce que ça peut apporter aux sceptiques qu'est-ce que ça peut apporter aux sceptiques qui nous écoutent de savoir que une discipline comme la géomythologie existe. J'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs. Mais c'est en fait la géomythologie, on va dire pour les sceptiques, comme j'ai dit, il y a une résonance directe avec la cryptozoologie. Il y a une résonance directe avec le créationnisme, c'est-à-dire que les créationnistes attaquent souvent sur comment dire, sur l'existence même. Des fois, ils attaquent l'existence même des dinosaures, mais surtout, ils vont attaquer on va dire, le fait que finalement, c'est nous, avec cette méthode scientifique moderne, qui inventons toutes nos interprétations, etc. Et trouver des exemples, justement, en dehors de la culture scientifique, qui vont dans le même sens que les interprétations scientifiques, ça rajoute des arguments en faveur justement de nos interprétations. C'est-à-dire on n'est pas forcément obligé d'être scientifique pour comprendre certaines choses. Voilà, tout simplement. Comme par exemple, comme je disais tout à l'heure, que les dinosaures traînaient pas leur queue derrière eux. Les Bushmen ont très bien pu s'en rendre compte. Et ça, c'est extrêmement. Ça peut être utilisé comme argument, on va dire, qui sont pas utilisés très souvent. C'est surtout ça. C'est plutôt que d'utiliser des arguments éculés aussi, on peut avancer des arguments qui sont nouveaux, comme ça, grâce à la géomythologie. Aussi de parler, bah, tout simplement de parler du fait que les gens avaient déjà des interprétations qui, on va pas dire qu'ils contredisaient les écrits religieux, mais il y avait effectivement certaines interprétations qui étaient très borderline, même avant Même avant la science, il y avait des interprétations des objets fossiles qui étaient déjà borderline niveau religieux. Et donc ça, c'est pareil, ça peut être utilisé en disant, bah oui, mais il y a des objets fossiles qui ne peuvent pas être expliqués par le prisme du créationnisme. C'est pas possible. Et
Ouais.
déjà à l'époque, ça, déjà à l'époque où on trouvait ces premiers éléments, ça posait problème. Voilà.
Ouais.
Donc
Donc
c'est
c'est vraiment une facette de plus qui permet un peu de comprendre certains
voilà.
éléments historiques, quoi.
Voilà. Et du point de vue scientifique, ça évite aussi de. Je pense que c'est une mise en garde aussi contre le. Peut-être pas le scientisme, mais peut-être une. Comment dire? Une mise en garde de trop se focaliser sur notre. Nos expli les explications qu'on apporte par notre propre prisme culturel. C'est surtout un truc que je vois sur Internet, enfin sur YouTube, Twitter, des gens qui veulent absolument trouver des interprétations à tout. Et se dire que, ouais, mais les interprétations que tu donnes sont faites par ton prisme culturel.
Ouais.
Et c'est à ça que sert la méthode scientifique, c'est précisément à s'écarter de ce prisme culturel. Par exemple, le monstre du Loch Ness, voilà, l'interprétation que les gens ont de dire, ah bah oui, mais c'est un plésiosaure, voilà, c'est, non, c'est ton prisme culturel à toi, tu sais l'existence des plésiosaures, donc tu interprètes ça comme un plésiosaure. Voilà.
Ouais.
Et puis du côté créationniste, par exemple, on a le. Il y a, je sais plus quelle image qui était représentée, mais bref, il y a souvent des représentations qui ressemblent à des dinosaures dans des. Par exemple, faites par justement des Indiens d'Amérique ou faites par des cultures qui ne sont pas censées savoir l'existence des dinosaures. Et du coup, on voit des représentations qui ressemblent à des dinosaures. On dit, ah, regardez, ils dessinaient des dinosaures, c'est que les dinosaures, ils ont existé en même temps que les hommes. Non, c'est ton petit cerveau d'occidental baigné dans le jus de Jurassic Park qui voit un dinosaure. Voilà, tu ne connais pas la culture de ces gens-là et tu ne sais pas ce qu'ils cherchaient à représenter en faisant ça. Voilà. Mais ça marche aussi pour les sceptiques, c'est-à-dire que ça marche aussi dans le sens où des fois on veut donner des explications sceptiques à des choses, mais en fait c'est passé à la moulinette de notre prisme culturel, quoi. Donc voilà, je pense
Ouais,
que c'est
c'est
une mise
ça.
en garde sur le monolithisme de notre pensée.
Ouais, ça c'est super intéressant. Mais ça fera une bonne conclusion pour cet épisode. En tout cas, merci Julien d'être venu nous parler de ce sujet assez innovant finalement.
Bah, merci pour cette interview, merci pour l'invitation. C'est bien de pouvoir partager ce petit pan de notre science qui est un peu méconnue encore. Encore tout jeune et méconnue.
Ouais, bah c'est clair. Je mettrai les références en tout cas de ton article sur la page pour ceux que ça intéresse. Et
Merci.
bah voilà, en tout cas, une prochaine fois.
À très bientôt.